Benedetta Papasoli, vous êtes professeur de littérature française à Rome. Vous avez écrit de nombreux livres en langue française. D'où vous vient cette passion pour la langue française ?
Je vais vous faire tout de suite une petite confession. Je crois que la passion pour la langue et la littérature française était une passion familiale. Je crois que pour ma famille, la langue et la littérature française étaient cet ailleurs où l'on peut trouver une patrie. Je me souviens du beau mot du père de Marguerite Yourcenar, Michel de Crayancourt, qui a dit « on n'est bien qu'ailleurs ». Et donc cet ailleurs qui est là, qui est une présence, a été incarné, disons, pour ma famille et pour moi-même dans ma jeunesse, dans toute première jeunesse, par la langue et la littérature française. À un certain moment, j'avais pensé m'orienter plutôt vers la littérature du XXe siècle, vers les avant-gardes poétiques, en particulier Pierre Reverdy, par exemple. Après, j'ai été comme éblouie par le grand siècle français qui reste pour moi le grand siècle malgré les doutes que parfois les Français eux-mêmes semblent nourrir à ce sujet. Donc ça a été une grande découverte, cet entrelac entre littérature, écriture, morale, moraliste, spiritualité qui caractérise le XVIIe siècle français m'a attirée d'une façon définitive.
Et vous avez écrit un livre là récemment en 2000, Le fond du cœur, et ensuite un autre livre, La mémoire du cœur, au XVIIe siècle. Qu'est-ce que vous avez voulu transmettre?
Alors, Le fond du cœur, naturellement, l'expression est entre guillemets dans le titre, et c'était une expression qui avait beaucoup d'occurrence dans la littérature et dans la pensée classique, disons. Alors, ce que j'ai essayé de montrer en suivant les représentations symboliques de l'intériorité au XVIIe siècle, ce que j'ai voulu montrer, c'est que bien avant la découverte de la psychanalyse, bien avant une certaine idée de l'intériorité, de la profondeur qui a été inventée, disons, par la psychologie du XIXe et du XXe siècle, il y avait toute une idée et une représentation de la profondeur sans laquelle on n'arrive pas à comprendre le développement de l'anthropologie moderne. Surtout sur le XVIIe siècle, la rencontre entre les moralistes et les auteurs spirituels et la résonance de cette rencontre, l'écho de cette rencontre dans la littérature, dans la poésie, dans le théâtre tragique, m'ont séduite.
Alors, vous avez parlé de symbolique, de l'intériorité. Quels ont été les symboles que ces auteurs employaient pour parler de l'intériorité?
Le terme même, la notion de fond, renvoie implicitement à celle de cime, de sommet, hein, de pointe. Donc là, il y a deux représentations qui s'intègrent réciproquement et qui ont tout un cortège, une constellation. En particulier, je me suis attardée volontiers sur l'image de la demeure. Donc là, j'ai essayé aussi de retrouver cette image de la demeure intérieure, de la maison, du château, qui est très ancienne, très célèbre, bien connue, qui a traversé la tradition mystique et spirituelle, mais qui est si importante aussi pour l'expression littéraire. J'ai essayé de retrouver ça même dans le roman du XXe siècle, avec un constat amer qui concerne la dimension d'absence, la prégnance de l'idée de vide, comme si la maison intérieure s'était d'une certaine manière vidée à un certain moment de l'histoire de la littérature. Bon, ça a été un peu un filon qui traverse les siècles et qui m'a attirée longtemps. C'est une ambivalence parce que le vide est aussi le lieu d'une présence.
D'un espace.
C'est un espace d'accueil. Donc il faut aussi, il faut créer un espace vide pour pouvoir accueillir. Mais en même temps, le vide est aussi un désert. Le vide est aussi le lieu d'une absence et d'une nostalgie. Donc cette dialectique, cette ambivalence de la notion qui m'a beaucoup frappée, Je dois dire que cela est particulièrement remarquable dans la littérature du XXe siècle, mais cela est très présent aussi sur cette frontière entre littérature et mystique au XVIIe siècle. Donc je pense que là, il y a des correspondances et des résonances qui méritaient d'être retenues.
Vous avez, à l'intérieur de ces notions, vous vous êtes attardé beaucoup sur la notion de mémoire, la mémoire du cœur.
Donc, en effet, l'étude de la problématique de la mémoire a été comme une continuation, un prolongement naturel de cette étude du cœur. Le cœur, il est très important de souligner que chez mes auteurs, au XVIIe siècle, le cœur n'est pas tout simplement le siège de l'affectivité, le siège des sentiments. Si l'on lit Pascal, il est très évident que le cœur est aussi le lieu de la volonté profonde et le lieu de la connaissance intuitive. Donc, lorsque j'ai commencé à comprendre l'ampleur de cette notion de cœur, j'ai retrouvé un intérêt pour la problématique de la mémoire. Dans ce livre qui vient de paraître, La mémoire du cœur au XVIIe siècle, j'ai recherché d'abord les racines, disons l'origine lointaine de l'idée moderne, très moderne, proustienne et avant romantique, de l'idée de mémoire affective. Et j'ai compris que cette mémoire affective était elle aussi d'une certaine manière ambivalente, parce que la mémoire affective est bien sûr la mémoire de l'enfance, c'est le retour, le jaillissement involontaire d'un moi profond, d'un moi essentiel. Mais cette mémoire affective est aussi une nostalgie des valeurs, une nostalgie de l'invisible. Là, je me rattache volontiers à une distinction que Paul Ricoeur, dans son grand livre sur la mémoire, a soulignée entre un côté plutôt aristotélicien, un côté plutôt platonicien de l'idée de mémoire. La mémoire est bien sûr l'organe du passé, mais elle est aussi l'organe qui permet de rendre présentes les choses absentes. Donc ça n'a pas d'importance si l'absent, c'est le passé, ou bien l'absent, c'est quelque chose ou quelqu'un qui est ailleurs, qui est invisible, et dont on a une mystérieuse nostalgie. Donc, ce livre, La mémoire du cœur, explore un peu les deux aspects qui sont très présents l'un et l'autre dans la littérature française du XVIIe siècle. Et c'est aussi une manière de proposer, disons, un approfondissement de certaines certitudes que nous avons aujourd'hui à l'égard de l'intériorité, de la vision de l'intériorité humaine.
Est-ce qu'on peut dire que cette mémoire affective est à la source de l'inconscient? Vous faites un rapprochement entre mémoire affective et inconscient.
Il est très intéressant d'interroger aussi l'histoire des mots. L'inconscient, le mot inconscient n'existait pas au XVIIe siècle. Donc il était anticipé, disons, par deux mots, l'inconnu et le cœur. Donc, si l'on veut retrouver, autant que dans la période qui m'intéresse davantage, le lieu qui deviendra plus tard l'inconscient et dont on a déjà le pressentiment, on a l'intuition, on ne trouve que ces deux mots, l'inconnu et le cœur. Mais l'inconnu et le cœur, ça c'est plus vaste que l'inconscient, hein? Donc, bien sûr, la mémoire affective a beaucoup à faire à l'inconscient, mais peut-être, j'ose dire, que cet inconscient assume des connotations plus vastes, plus mystérieuses que ce qu'on entend normalement par inconscient aujourd'hui.